préserver l'eau, se déplacer autrement. Les élèves de seconde du lycée professionnel du Bugey ont réalisé une émission spéciale pour préserver l'environnement. Et c'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lucas.
Bonjour Tilio, bonjour à tous.
Nous sommes très fiers de présenter l'émission préparée par notre classe.
Les TNE du lycée professionnel du Bugey.
Au programme.
Des interviews pour limiter ses déchets, se déplacer autrement et préserver l'eau.
Un micro-trottoir dans les rues de Belley, un tuto pour moins consommer d'eau et un quiz sur les vélos en libre-service.
Ouvrez bien vos oreilles.
Pierre Cochonat est vice-président de la communauté de communes Bugey Sud en charge du cycle de l'eau. Il est aussi géologue sous-marin.
C'est quoi la communauté de communes Bugey Sud ?
Elle regroupe 43 communes situées dans le sud-est du département de l'Ain.
On écoute Pierre Cochonat au micro de Gabin et Ramazan.
Ça veut dire quoi être en charge du cycle de l'eau ?
Tout ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Savoir gérer tous les systèmes, tous les réseaux, les entretenir, distribuer l'eau potable. Et ensuite, une fois que l'eau potable elle est consommée par nous-mêmes, par les usagers, par les habitants, elle est rejetée au milieu. Mais pour ça, il faut la traiter, il faut l'assainir. Donc c'est un peu les égouts, si vous voulez. On retrouve tous les... On va avoir en charge tous les systèmes d'assainissement avant que de rejeter une eau la plus propre possible dans le milieu naturel. Et aussi, un aspect très important, ce sont les travaux que l'on fait pour réhabiliter souvent des rivières qui ont été un peu abîmées par l'homme, endiguées, qui ne vivent plus, tant du point de vue de la biodiversité que du point de vue de la circulation de l'eau. On subit quand même le changement climatique. Et puis on redonne aussi une vie à la rivière. Donc c'est une question de biodiversité qu'il faut qu'on retrouve.
Pourquoi est-ce essentiel de préserver l'eau et les milieux aquatiques ?
On ne peut pas vivre sans eau. Et puis, il faut être capable de produire une eau de qualité, préserver cet environnement qui est très important. Et dans le Bugey, l'eau elle tient une place importante. Et l'autre raison, c'est tout ce qui touche à la biodiversité. Toute la vie, y compris la vie humaine, hein, dépend de l'eau.
D'où vient l'eau distribuée aux communes du Bugey Sud ?
Vous savez qu'on a quand même ici des montagnes. Hein, calcaire avec des grottes, des fissures, des failles et tout ça, ça c'est le géologue qui parle. Et donc dans ces massifs calcaires, il y a beaucoup d'eau qui circule. Et cette eau, elle ressort à certains endroits, dans des sources, des résurgences, elle ressort. Et ça, c'est la première source d'alimentation dans le Bugey. Ce sont les sources qu'on appelle karstiques. Et donc ça, c'est la première ressource. C'est une ressource qui est gravitaire, c'est-à-dire que l'eau, elle coule et on a juste à la prendre. Il suffit qu'elle soit au-dessus du village, on peut alimenter le village. Mais la deuxième grosse ressource, évidemment, qui est très importante, ce sont les forages, les puits dans la nappe phréatique, hein, dans le sol. Et dans le Bugey, il y a plusieurs grosses stations de pompage qui alimentent une grande partie du secteur. Alors il ne faut pas imaginer que ce qu'on appelle une nappe phréatique, hein, c'est ça, c'est une nappe qui est remplie d'eau, c'est pas un lac souterrain, hein, ce sont des alluvions, des sols où il y a du sable, des graviers, des galets, tout ça, et entre ces galets, il y a de l'eau.
Comment est-elle distribuée ?
Nous avons 654 km de réseau, de tuyaux, pour distribuer l'eau dans l'ensemble de Bugey Sud. Et ces 654 km... Il faut les entretenir, ils vieillissent, il faut les remplacer, il faut les surveiller, il y a parfois des fuites. Et pour l'assainissement, il y a 410 km de réseau pour récupérer les eaux usées, les traiter. On est tenu de faire les choses très proprement pour que l'eau soit correcte quand on la rejette. Et donc c'est ce réseau de tuyaux d'assainissement, il se termine dans des stations d'épuration où on traite l'eau et avant de la rejeter.
Est-ce que les ressources en eau du Bugey Sud pourraient diminuer avec le dérèglement climatique ?
Elles ont déjà diminué, puisque globalement, on a des périodes chaudes, des périodes d'étiage, où par exemple, les rivières sont à sec. Et il y a un gros sujet pour nous, c'est le Rhône. Puisque le Rhône, c'est un fleuve, hein, qui transporte beaucoup d'eau, mais qui a déjà, selon les chiffres fournis par la Compagnie nationale du Rhône, qui gère le Rhône et qui fait de l'électricité avec, hein, avec le barrage de Génissia, le Rhône aurait déjà perdu 30% de son débit en quelques dizaines d'années. Et il prévoit que dans les années prochaines, disons dans 30 ou 40 ans, ils peuvent encore perdre 30%. Donc si le Rhône perd une grande quantité d'eau, c'est le niveau moyen de l'eau dans le sol qui va baisser partout, y compris dans nos rivières. Ça, c'est un enjeu, ça.
Pierre Cochonat, vous êtes vice-président de la communauté de communes de Bugey Sud, en charge du cycle de l'eau, et vous êtes aussi géologue sous-marin. En quoi est-ce utile d'être géologue sous-marin pour gérer le cycle de l'eau à la communauté de communes Bugey Sud ?
Cette approche environnementale, ce côté nature que représente le métier de géologue, va très bien avec la vice-présidence des cycles de l'eau. Hein, les cycles de l'eau que je vous ai à peine abordés, mais c'est quand même... moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'ai fait des études en hydrogéologie. Je connais bien les problèmes de circulation de l'eau souterraine. Quoi, voilà.
Une dernière question. Quel serait votre message à nous adresser à nos lycéens ou à nos familles pour nous convaincre de préserver l'eau ?
Je pense que c'est surtout une prise de conscience qu'il faut. Elle est en train de se faire, la prise de conscience, hein, à travers tout ce qu'on entend dire sur l'eau. Quand on écoute les informations, en ce moment, ça commence à devenir catastrophique dans le sud de la France. Donc, il faut que les gens pensent que l'eau, c'est un bien commun, c'est un bien naturel qui appartient à tout le monde, mais qui a besoin de beaucoup de moyens, d'infrastructures pour le capter, le rendre potable, le traiter, le rendre à la nature dans les conditions correctes. Tout ça, ça coûte cher. Donc il faut préserver la quantité, au maximum la quantité d'eau qu'on veut utiliser. J'aurais presque envie de dire qu'il faut que les parents écoutent les enfants, parce que je pense que les enfants sont très sensibles au sujet d'environnement.
Merci à Pierre Cochonat pour cette interview.
On l'a entendu, il faut changer nos habitudes pour moins consommer l'eau potable.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Thilo et Victor ont tendu leur micro à des habitants de Belley.
Prenez-vous plutôt des douches ou des bains ?
Ben, douche, parce qu'on a supprimé les baignoires.
Ah, moi, plutôt des douches, parce que je trouve que j'utilise moins d'eau.
On a fait enlever la baignoire, on a fait faire une douche. Je trouvais ça plus pratique, plus rapide, plus efficace.
Quelles sont vos astuces pour consommer moins d'eau ?
J'éteins l'eau après le savonnage et je la rallume pour le rinçage.
Je arrose chez moi avec l'eau de récupération des eaux de pluie.
Fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents.
Jamais laisser couler l'eau pour rien.
Et pas tirer la chasse sous le temps non plus.
Quelles mesures seraient nécessaires pour obliger les gens à consommer moins d'eau ?
La prévention générale par des annonces... sur les économies d'eau.
Si je dis qu'il faut augmenter le prix du mètre cube, c'est peut-être pas la solution, mais c'est celle qui marcherait le mieux, je suppose. Autrement, bah, sensibiliser les gens. Mais bon, c'est comme le reste, il n'y a pas que pour l'eau, ça. Hein.
Bah alors ça, c'est pas gagné, parce que les gens ont pris de mauvaises habitudes et je ne pense pas qu'ils soient encore en mesure de changer leurs habitudes.
Je sais pas, leur faire changer le pommeau de douche, mettre des pommeaux économiques et des, je pense, des choses comme ça, sensibiliser les gens.
Merci aux personnes qui ont répondu à nos questions. Vous êtes bien sur Radio B.
Maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, avec Thilo, on vous propose un tuto pour économiser l'eau. Un bain consomme 150 à 200 litres d'eau et une douche 60 à 80 litres d'eau en 5 minutes. Il faut privilégier la douche au bain. La chasse d'eau utilise 9 litres d'eau. Il faut donc privilégier la chasse d'eau à double commande.
Une fuite à la chasse d'eau utilise 600 litres d'eau par jour. Une fuite au robinet, c'est 120 litres d'eau. Donc il faut absolument réparer les fuites d'eau dans la maison au plus vite.
Ne laissez pas couler l'eau quand vous vous brossez les dents.
Pour arroser ses fleurs intérieures, on peut utiliser l'eau de rinçage des légumes. Utilisez plutôt le lave-vaisselle que la vaisselle à la main.
Récupérer l'eau de pluie pour arroser les légumes.
Préserver l'eau et moins consommer d'eau potable doivent devenir une priorité. On peut aussi protéger l'environnement en utilisant moins sa voiture.
Depuis le déconfinement, avec la hausse des prix du carburant, de plus en plus de personnes choisissent d'aller au travail à vélo, par exemple.
Pour accompagner les gens à prendre leur vélo et surtout donner les bonnes bases aux plus jeunes, il y a l'association Olé Vélo.
Amadeo et Ludovic ont interviewé l'un de ses membres.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, Renaud Fornelli, moi je suis professeur dans la vie de tous les jours. Et puis là, je suis présent dans votre émission parce que je suis membre d'une association de Belley qui s'appelle Olé Vélo.
C'est quoi votre définition personnelle de la mobilité verte ?
La mobilité verte, ça va être tous les déplacements qui sont organisées de façon à être le plus respectueux de l'environnement. Voilà. Et donc, ces déplacements respectueux de l'environnement, ça peut être à la fois du covoiturage, ça peut être des transports en commun, ou ça peut être d'utiliser des moyens de déplacement qui vont polluer le moins possible, comme par exemple le vélo, et c'est l'objet de notre association.
Pourquoi il devient urgent de moins utiliser sa voiture ?
Alors, bah, vous savez, quand on utilise sa voiture, bah, on va consommer de l'essence et rejeter du CO2 dans l'atmosphère, rejeter également des particules. Tout ça, ça participe à la pollution de l'atmosphère. Et donc, depuis pas mal d'années, on est au courant qu'il y a un réchauffement climatique et que le CO2 que l'on rejette avec nos véhicules favorise et intensifie ce réchauffement climatique. Donc voilà, changer de moyen de déplacement, ça peut être un moyen de réduire nos émissions de CO2.
Pourquoi l'association Olé Vélo a vu le jour à Belley ?
Alors historiquement, l'association Olé Vélo, elle est née en novembre 2019, donc c'est assez récent. Et c'était une association qui avait pour objet de favoriser les trajets à vélo pour les élèves de collège. Et puis, à partir de ce constat-là, on avait vu qu'il y avait très peu de collégiens qui venaient à vélo, alors que c'est possible, à la fois dans Belley et puis les villages autour, grâce à la Via Rhôna. On a voulu promouvoir cette possibilité-là pour les collégiens d'abord, et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire dans la ville de Belley au niveau des aménagements cyclables. Et puis, depuis 2 ans, avec le savoir rouler à vélo. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que j'explique ce que c'est le savoir rouler à vélo.
Oui, ce serait intéressant de le savoir.
Alors, le savoir rouler à vélo, c'est quelque chose qui est nécessaire pour tous les CM2 6e. Il faut faire en sorte que chaque enfant soit capable de faire du vélo, de circuler à vélo, c'est-à-dire connaître un petit peu les panneaux de la signalisation routière, savoir comment on se positionne sur la route, et puis savoir aussi se déplacer, mais tout seul. Et ça, depuis 2 ans, on l'a mis en place dans les écoles de Belley.
Vous avez participé à des réunions à la mairie de Belley et à la communauté de communes Bugey Sud. Quels ont été vos messages ?
On a participé avec la Comcom, donc avec la communauté de communes, sur les possibilités d'aménagement cyclable autour de Belley. Et là, depuis bientôt 1 an, on travaille avec la mairie pour essayer de proposer des petits aménagements cyclables qui favoriseraient les trajets du quotidien pour les gens qui se déplacent à vélo dans Belley. J'ajoute qu'en fait, ces aménagements, ils sont super importants. Parce que s'il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas vraiment de possibilité pour des enfants de se déplacer en sécurité. Et une fois qu'il y a les aménagements, et ben les cyclistes ils viennent s'installer dessus. Et d'un coup, ça devient possible d'aller au collège Zlatin à vélo super facilement depuis le centre-ville.
Aujourd'hui, y a-t-il plus de pistes cyclables sur Belley qu'avant ou...
Alors, il y a une vraie amélioration, mais qui date maintenant de... Je pense qu'elle a été inaugurée en septembre 2020. C'est la voie douce qui relie la Via Rhôna au centre-ville, même si elle s'arrête un petit peu avant le centre-ville. Et donc cet aménagement, il avait été décidé avant la création de l'association. Donc ça, c'est un vrai plus à la fois pour les gens qui habitent Belley, mais aussi pour les touristes qui font du vélo sur la Via Rhôna et qui peuvent venir dans le centre-ville. À part cet aménagement-là, pour l'instant, il n'y a pas encore eu beaucoup d'évolution.
Si vous aviez un message à adresser à nous, lycéens, ou à partager à notre famille, pour nous convaincre de plus utiliser le vélo pour nos déplacements du quotidien, ce serait lequel ?
Alors, dans les grandes villes, ça va beaucoup plus vite. Dans Belley, si on reste à l'intérieur de Belley, ça va quasiment aussi vite. C'est quand même plus simple de se garer. Pour vous qui êtes jeune, vous n'avez pas encore le permis. Au moins, on est indépendant à vélo, on peut se déplacer tout seul, on n'a pas besoin de demander à un grand frère, une grande sœur ou aux parents de nous amener. Et puis, en même temps, je pense que vous êtes jeune, vous êtes sensible à votre avenir et de prendre la décision d'utiliser le vélo le plus possible, c'est aussi garantir un meilleur avenir.
Renaud Fernemeli, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis...
eh ben, merci à vous pour cette interview. Bonne continuation avec votre radio.
Merci encore à Renaud Fornelli d'avoir accepté cette interview.
Lucas, on te retrouve maintenant avec Yacine pour tester nos connaissances.
Bonjour à tous, je suis Lucas et je suis avec Yacine.
Bonjour Lucas, bonjour à toutes et à tous.
On vous propose un quiz sur le vélo de plus en plus utilisé pour se déplacer.
Vous êtes prêts ?
C'est parti.
Première question, combien de personnes en France se déplacent à vélo de chez eux à leur travail? 1 million, 500 000, 20 millions?
La bonne réponse est 500 000 personnes selon un article publié dans Les Échos en 2021.
Quelle ville en France est la mieux adaptée pour faire du vélo? Lyon, Dijon, Grenoble?
Grenoble remporte l'édition 2021 du baromètre des villes cyclables dans la catégorie des grandes villes selon un article publié en 2022 sur geo.fr.
Dans quelle ville sont apparus les premiers vélos en libre service dans le monde? Amsterdam, Tanger, Berlin.
La bonne réponse est Amsterdam. Dans cette ville hollandaise, certains habitants ont peint leurs vélos en blanc et ensuite ils étaient mis à disposition. Mais ça a été un échec car certains disparaissent, une information publiée sur lacroix.fr.
Et où sont apparus les premiers vélos en libre service en France? Marseille, Nice, La Rochelle.
C'était en 1976, La Rochelle est la première ville française à lancer cette initiative. Les vélos appelés Yellow Vélo étaient à disposition gratuitement. Ils circulent toujours aujourd'hui et c'est toujours selon lacroix.fr.
Quel pays dans le monde a le plus important service de vélo en libre service? Tunisie, Chine, Suisse?
La Chine est en tête du classement, mais Paris est la ville européenne où il y a le plus de vélos en libre service.
Et une dernière question. Parmi ces noms de vélos en libre service, lequel n'existe pas? Vélov, Vélib, Vélov.
La mauvaise réponse est Vélov. Ce nom a été inventé par Lucas. Le Vélib existe à Paris et le Vélov à Lyon.
Pour prendre soin de la planète, utilisez plus de vélos.
Merci de nous avoir écoutés.
Restez à l'écoute de Radio B et de l'émission spéciale des secondes du lycée professionnel du Bugey.
On se retrouve juste après ça.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle. On se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Devant Paulette.
La bicyclette chantée par Yves Montand et remixée par Phase Edith.
Préservez l'eau, privilégiez le vélo pour réduire le gaz à effet de serre et limiter ses déchets. C'est le thème de la prochaine interview avec Benoît et Lucas.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Terrier et les gens me connaissent sous le nom d'Emma et je suis chef d'entreprise. J'ai créé ma première auto-entreprise il y a 13 ans et aujourd'hui j'ai une seconde société qui s'appelle Emma Seconde Chance après avoir cette auto-entreprise qui s'est un petit peu transformée et qui a avancé en l'espace de 13 ans.
C'est quoi les tendances d'Emma ?
Alors, les tendances d'Emma, c'est la marque que j'ai créée il y a maintenant 13 ans, qui est en fait une marque qui regroupe un certain nombre de produits, mais également, j'ai tendance à dire, c'est une offre globale, cohérente, éthique, solidaire. C'est un petit peu les mots qu'on utilise pour définir la marque. C'est un ensemble de produits qui vont permettre d'accompagner chacun vers la réduction des déchets sur des petits produits du quotidien que l'on jette toute la journée. Et l'idée, c'est d'accompagner en fait chacune des personnes, des gens comme vous, comme tous ceux qui sont également ici, à leur proposer des solutions simples pour remplacer des produits que d'habitude ils jettent toute la journée.
Comment avez-vous eu l'idée de créer cette entreprise?
J'ai d'abord créé les produits pour moi, pour mon petit garçon quand il est né. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je... C'était le début, je vous parle d'un temps que vous ne connaissez sans doute pas, mais en fait, en 2009, c'était le début des auto-entrepreneurs. C'était très nouveau à l'époque. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et j'ai commencé comme ça, petit à petit, pas à pas.
c'est quoi l'atelier Emma Seconde Chance ?
L'atelier Emma Seconde Chance, c'est un atelier qui est au même endroit que les Tendances d'Emma, qui est sur Belley, et qui a la particularité d'être une entreprise d'insertion par l'activité économique.
Pourquoi avez-vous décidé d'impliquer des personnes en insertion et réinsertion ?
Parce que c'était depuis le premier jour, quand j'ai commencé à tout faire moi-même, en fait. Et derrière, en fait, quand il a fallu faire fabriquer, c'était hyper important pour moi que ce soit fait en France, mais qu'en plus, ça puisse porter un projet sociétal. Et il se trouve qu'à titre personnel, j'étais mariée avec un gendarme, donc j'habitais en gendarmerie. Je voyais toute la journée ce que signifiait les conséquences d'une incarcération, parce que Franck m'en parlait, et voilà. Et je me suis dit, et à mon petit niveau, comment est-ce que je peux agir ? Donc j'ai commencé dans un premier temps à aller faire fabriquer en centre de détention. Et en 2019, j'ai rencontré quelqu'un qui avait créé son entreprise d'insertion par l'activité économique. Et je me suis dit, c'est chouette si on peut aller encore un peu plus loin que la détention. Et si on peut permettre, grâce à la fabrication de nos produits, de permettre à des gens qui sont sans emploi de retrouver un travail, allons-y, go.
Ça vous apporte quoi de tout fabriquer en France ?
Pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'on gagne un pari, qui est de dire, on a des produits, il y a 13 ans, je n'avais jamais touché une surjeteuse, je ne savais pas ce que c'était que de coudre, et pourtant, je m'y suis mis et j'ai réussi à le faire. La fabrication du Made in France sur nos produits, il a comme objectif de dire, en fait, c'est pas tellement des carrés démaquillants qu'on fait, c'est bien autre chose, bien au-delà. On va bien au-delà d'un carré démaquillant. Et justement, c'est tellement simple à faire qu'on doit montrer qu'il est possible de le fabriquer en France, que ça coûtera 10 fois plus cher que si on le faisait fabriquer au bout du monde, mais que entre l'impact humain et l'impact de transport, on gagnera ce pari. Parce que je crois que les gens ont envie réellement de savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent.
Comme bonne résolution pour 2022, vous avez décidé de réduire le suremballage. Pourquoi cette décision ?
Ça fait partie de nos paris de fous, en fait. On a toujours fait des paris à contre-courant. Et une des choses, c'était de dire, en fait, on a l'atelier, on a le lieu d'expédition, c'est au même endroit. Mais pourquoi j'irais mettre un packaging par-dessus, en fait, qui me permet de reconnaître la marque dans les magasins. Moi, je crois que quand on vient sur notre site internet, qu'on achète les produits, on veut simplement le produit, on ne veut pas le packaging, qui est en fait finalement la première chose que quand on reçoit, quand vous achetez sur internet quoi que ce soit, vous commencez par faire quoi de l'achat que vous venez de faire ? Balancer en fait le packaging qu'il y a autour. Mais je me suis dit, mais si les gens viennent chez nous, peut-être qu'ils veulent quelque chose d'autre. Et si on prenait le pari avec eux de réduire ça. Donc l'idée, c'est d'avoir juste un tout petit couvercle sur les boîtes, juste pour maintenir pendant le transport, pour éviter qu'on reçoive son kit en kit. Et en fait, de permettre justement de dire aux gens, le packaging, il est sur Internet, réinventons la vente sur Internet. Et en fait, si c'est fait par des êtres humains, ils connaissent les produits, donc il n'y a pas besoin de gêne code, de packaging, c'est nos produits, c'est eux qui les confectionnent, c'est eux qui les fabriquent. Donc on a fait ce pari de dingue.
Vos produits sont-ils exportés à l'étranger ?
On essaye de limiter au maximum l'export à l'étranger et de surtout pas se développer à l'export. Parce que c'est ce que je dis, je suis allée au Brésil un jour, on m'a demandé d'intervenir. Et en fait, ils m'ont dit, on adorerait trouver vos produits chez nous. Et j'aurais dit, oui, mais vous êtes en train de me dire que je vais prendre un avion ou un cargo plein de fuel, que je vais mettre mes produits et que je vais les envoyer chez vous pour permettre d'éviter de jeter des produits. Enfin, à un moment donné, je croise les skis. Donc, mon rêve, c'est de montrer que ça fonctionne en France et d'exporter le projet pour l'adapter à chacun des pays. Mais je refuse un peu de cautionner, de dire « Ah ben oui, mais nos produits marchent » et derrière d'engendrer des transports, alors que je fais tout pour les limiter en faisant du Made in France, ça me paraît incohérent.
Si vous aviez un message à adresser à nous, lycéens, pour nous convaincre de réduire nos déchets, ça serait lequel ?
Alors déjà, si j'avais un message à vous adresser, vous lycéens, c'est bravo, parce que franchement, je trouve qu'en matière de déchets, vous êtes juste 10 niveaux au-dessus de nous à votre époque. Et donc, le plus gros message que je vous adresserai, c'est continuer, parce qu'en fait, vous, la réduction des déchets, c'est une évidence. Nous, on a appris ces mots-là, on ne les connaissait pas, ils n'existaient pas. Donc, continuez, parce que ce que vous faites, c'est déjà tellement mieux que nous que vous finirez forcément bien au-delà, quoi. Moi, j'ai confiance en vous.
Emma Terrier, merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien.
Encore un grand merci à Emma Terrier d'être venue à notre rencontre au lycée professionnel du Bugey.
C'est la fin de notre émission spéciale en direct du lycée professionnel du Bugey.
Merci, chères auditrices et auditeurs,
de nous avoir écoutés.
C'était les secondes du lycée professionnel du Bugey.
Amadeo,
Victor,
Kilio,
Gabin,
Ramazan,
Ludovic,
Lucas,
Yacine,
Lucas,
Inès.
Merci à nos enseignants.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions.
Merci à Inès à la technique.
Et merci à Radio B.
Retrouvez cette émission
en podcast
sur le site
radio-b.fr.
À bientôt sur Radio B.